Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Pour cet épisode d'Univox, je tends le micro aux adultes en situation de handicap, avec le soutien de Radio Campus Montpellier et de l'association Mauvais Cancre 34. Je suis Antonin Brayer, en service civique à Radio Campus Montpellier. Deux personnes ont accepté de partager leur témoignage avec vous, et moi aussi, je vais me livrer. La première personne qui a souhaité rester anonyme, nous l'appellerons Aude. Professeure de yoga, elle n'a pas encore de diagnostic officiel. C'est grâce à l'association Mauvais Cancre qu'elle entame un parcours pour mieux comprendre ses difficultés.
Quand vous serez prête, vous pouvez vous installer sur le tapis. Prendre une assise confortable.
Ok, alors aujourd'hui, je ne suis pas du tout diagnostiquée. J'ai juste commencé à contacter des psychologues, neuropsychologues. Enfin, j'ai vu une psychologue, une neuropsy qui pensait que j'étais... TDAH compensé par des capacités, on va dire. Enfin, que du coup, je cachais et que je m'adaptais. Et que c'était pour ça que j'étais super fatiguée. Et voilà, après, une orthophoniste aussi avec qui j'ai fait un test, mais j'ai pas encore les résultats.
C'est vrai que le mot handicap fait peur, mais c'est important de se dire qu'on n'est pas handicapé, on est en situation d'handicap. Ce qui est handicapant, c'est l'environnement, c'est l'adaptation qui n'est pas là pour tout, l'accessibilité de n'importe quoi physique, mais aussi au niveau des supports de communication, au niveau de pour se repérer dans la rue, mais aussi pour les aménagements au travail, des choses comme ça.
Sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ramener les mains sur le sol, faire des petits pas avec les mains et laisser le buste tomber vers l'avant.
Alors, je pense que c'est essentiel de commencer par vous dire troubles du neurodéveloppement, pour vous, ça veut dire quoi? Et bien, les troubles du neurodéveloppement, ça englobe 4 autres troubles. Les troubles 10, le trouble du spectre autistique, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et le trouble du développement intellectuel. Ça concerne 1 Français sur 6 selon la stratégie nationale des troubles du neurodéveloppement, mais on pense que c'est beaucoup plus de personnes.
Mathieu, lui, est développeur de jeux vidéo indépendant. Son diagnostic d'autisme est arrivé tardivement à seulement 31 ans.
Je comprends aussi que j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ce test, auquel on a plus de recul de manière générale. Il y a pas mal d'élèves autistes qui ont été diagnostiqués sur pour ne pas diagnostiquer autiste, clairement, et qui ont quand même précisé aux parents cette mention presque autiste, qui en fait veut dire ça. Ça veut dire que vous êtes autiste, mais vos proches, vous, n'êtes pas, souvent les médecins, n'est pas prêts à l'entendre, donc ils détournent un petit peu les mots.
Encore une fois, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés, tirez la poitrine vers l'avant.
Bref, le handicap cognitif est un handicap invisible. Il est comme une ombre. On oublie qu'elle est là, mais elle nous suit partout.
Alors, on accompagne majoritairement des personnes qui sont diagnostiquées porteuses de troubles. On accompagne aussi énormément de personnes qui se posent des questions, qui se demandent s'ils ne seraient pas porteuses du trouble du spectre autistique ou d'un trouble 10 ou autre. Et on essaye de les accompagner justement vers les bons professionnels, vers les bonnes plateformes, pour qu'ils puissent avoir un diagnostic. Parce que le diagnostic est la clé de beaucoup de choses. La clé d'ailleurs de comprendre sa propre histoire, son propre vécu, mais aussi d'avoir accès à des droits au travail, à l'école, à la fac, partout en réalité.
Au-delà du handicap lui-même, j'ai voulu mettre en lumière les parcours parfois complexes pour obtenir un diagnostic. Mon propre chemin n'a pas été simple, diagnostiqué une première fois en 6e, j'ai refait un bilan à 17 ans pour bénéficier d'un tiers-temps pour passer le bac. J'ai alors été diagnostiqué 10. Pendant longtemps, je n'ai pas réussi à comprendre mes difficultés à l'école lors des lectures, dictées et par la suite des dissertations. J'ai pris connaissance seulement en études supérieures des nouveaux outils pour m'aider dans mon handicap. Par exemple avec l'application Antidote qui permet de corriger mes fautes d'orthographe tout en expliquant les règles de grammaire. Cela peut sembler anodin, mais écrire un simple mail sans faute d'orthographe relève d'une extrême vigilance de ma part. Parce que ça se ne voit pas, le handicap cognitif est souvent ignoré, retardant l'accès aux aides essentielles. Mais être diagnostiqué, c'est enfin poser les mots sur ces difficultés vécues au quotidien et pouvoir trouver des solutions.
Alors c'est vrai que maintenant on parle beaucoup des troubles des apprentissages, pour parler des troubles 10, moi j'aime pas ce mot, troubles des apprentissages, parce que ça renvoie qu'à l'école et on est 10 à vie, donc il faut savoir qu'on est porteur de troubles, on meurt porteur de troubles, donc on a 10 à vie, on aura des difficultés même si on compense à vie.
Ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est que le handicap cognitif regroupe des difficultés très variées. Dans ce podcast, vous entendrez Mathieu, autiste, Aude, qui est en cours d'un diagnostic possible pour un TDAH, et moi-même, dyslexique. Ensemble, on essaye de reconstituer le pulse pour mieux comprendre notre réalité.
Enfin, je pense que je me rends de plus en plus compte des difficultés que peuvent avoir les gens, et du coup, toujours un peu me demander aussi si les gens, comment ils vivent, quoi. Enfin, comment, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui se passe pour eux dans leur tête et tout, et d'essayer de comprendre les difficultés de tout le monde un peu. Enfin, on pourrait dire ça. Enfin, ça peut se voir comme ça peut ne pas se voir, et du coup, n'importe qui, genre même dans mes proches et tout, peut-être qu'ils sont concernés, mais bah du coup, on sait pas vraiment, et enfin, je sais pas.
Mais vous mettez ça en partie sur le compte de ce que vous êtes soi-disant plus intelligent. Alors, en fait, je comprends avec l'autisme, c'est pas du tout ça. En fait, c'est la difficulté de prononciation, de comprendre les interactions, difficulté de compréhension des interactions sociales, toutes les petites choses très très précises qu'on a du mal à comprendre nous les autistes, c'est ça qui fait que j'ai du mal à communiquer avec tout ce qui, du mal avec tout ce qui est implicite.
Alors, définir les troubles du neurodéveloppement, c'est extrêmement compliqué puisque chaque personne est différente, chaque personne a des besoins, des difficultés différentes. C'est une tâche que je déteste faire, mais je vais essayer de le faire. Les troubles dys, ça peut être des difficultés au niveau de la coordination des gestes, au niveau pour lire, pour écrire, pour parler, pour se repérer dans la rue, pour communiquer aussi. Et après, pour le trouble du spectre autistique, je crois que c'est le plus dur à définir. Surtout qu'actuellement, il y a des définitions qui sont moches et qui ne représentent pas les personnes. On définit souvent que c'est des caractères qu'on a, des caractères restreints, répétitifs, qu'on a du mal avec les interactions sociales, qu'on est souvent isolé ou alors qu'on parle pas pour certains. C'est pas que ça, l'autisme. Ce sont des personnes qui ont des difficultés pour communiquer, effectivement, avec les interactions sociales. Mais je crois que définir l'autisme, c'est surtout définir des personnes qui n'ont pas forcément toujours les codes sociaux auxquels la société a, n'ont pas toujours la façon de pouvoir parler aux gens. Et on peut avoir aussi souvent les caractères restreints, répétitifs des choses, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir qu'un intérêt restreint et on se donne à cœur sur ça.
On connaît mal l'autisme en France, on est vraiment très en retard. Et même le premier bouquin qui est en France qui commence à parler de l'autisme de façon plus réaliste et plus complexe, le bouquin sur le syndrome d'Asperger est sorti en 99. Moi, j'ai diagnostiqué en 98, donc mes médecins étaient encore sur des explications très, très vieilles, très psychanalytiques. Les autistes sont des gens qui ont, la mère a pas suffisamment communiqué avec eux pendant l'enfance, pas suffisamment d'affection, donc ils ont pas développé de sentiments du tout. Littéralement des espèces de psychopathes pour les psychanalystes. On avait des explications qui allaient dans ce genre-là, donc, à 11 ans, c'était peut-être pas le bon moment, il fallait attendre encore quelques années, mais après oui, il fallait que je sois diagnostiqué plutôt possible pour qu'on comprenne ce que c'est vraiment ce que l'autisme, pouvoir, comprendre mes difficultés, pourquoi, et mieux grandir, mieux me développer en connaissance de cause.
Comme moi, Mathieu a été mal diagnostiqué. En sixième, on lui dit qu'il est presque autiste et surdoué. C'est ce dernier point que ses enseignants retiendront, laissant de côté ses réelles difficultés liées à l'autisme.
Il y avait de l'affection, mais il y avait une incompréhension, une certaine distance aussi. Quand j'étais début de collège, l'environnement de collège m'a un peu décontenancé au début, le fait de changer de salle à chaque fois. La pression qui augmente aussi, c'est mal vécu, j'ai commencé à m'enfermer encore plus qu'avant au début de sixième, et c'est là qu'on a emmené voir un psy qui a diagnostiqué presque autisme, c'est ce qu'ils ont dit, et à côté de ça, ils m'ont fait passer un test de QI où j'ai eu 132, ils m'ont déclaré surdoué. Ça m'a rassuré, ça rendait un peu narcissique aussi, je crois un peu, pas trop, mais un peu quand même. Quand j'étais, c'est bizarre, c'est un truc qui vous valorise quand même. Qui me rassura beaucoup. On a dit au prof que j'étais surdoué. On a dit au prof quand j'étais diagnostiqué, en début d'année, en cinquième, en quatrième, on l'a répété aussi. Comme on a une bonne mémoire, on peut passer pour quelqu'un d'intelligent souvent. On peut réciter pas mal de choses. La mémoire est par quelqu'un de cultivé. Dans l'intelligence, c'est autre chose. Je crois que j'ai baissé au collège. Avec aussi un peu l'environnement du collège, plus stressant encore, plus angoissant. J'ai une certaine fatigue aussi. Au début, le collège était très bon, qu'à la fin, j'étais moyen. Que je commençais légèrement, continuais légèrement à baisser, on disait plus, en fait. Mes parents ne disaient plus aux profs que j'étais surdoué. Déjà en troisième où j'étais à 12 en moyenne générale. Leur au lycée, non. Je crois qu'ils ont, pas oublié, mais ils en ont parlé moins.
L'école est souvent l'endroit où l'on prend conscience de son handicap. C'est en primaire que Aude commence à réaliser qu'elle ressent des émotions très fortes, peut-être trop fortes. Mais avoir des émotions intenses ne suffit pas à être diagnostiqué TDAH.
Bah, c'était une petite école avec une grande cour et Bah en fait c'est un peu aussi le début où enfin je comment dire. Bah par exemple pendant les récré, j'étais un peu toute seule sur le banc à lire alors que les autres ils étaient en train de jouer ensemble et du coup j'étais enfin toujours la petite fille toute seule comme si et j'avais une copine qui me disait un jour sur deux t'es ma copine et l'autre jour sur deux t'es plus ma copine, du coup c'était horrible. Du coup j'étais très isolée je pense pendant les périodes de pause.
Après pour le TDAH, trouble du déficit d'attention mais ou sans hyperactivité, ça peut être des difficultés pour la gestion des émotions, pour l'impulsion, au niveau aussi de la concentration. Et souvent les hyperactivités mentales ou même physiques, c'est-à-dire qu'on bouge beaucoup alors qu'on pense tout le temps. Mais vraiment une dose très très forte, hein, c'est pas...
Ben moi j'ai que des émotions fortes. Du coup je me souviens que, enfin je m'étais dit ça au collège, que genre par exemple si j'étais heureuse un jour, je me disais oh non c'est à dire que demain je vais être triste. Et vraiment un jour sur deux j'étais triste et le jour d'après j'étais hyper contente. Et j'ai jamais été un peu neutre, à part justement avec un peu le yoga et tout. Enfin en fait je me suis un peu reculée de ces émotions là et de comment les déclencher. C'est un peu triste aussi. Ouais, dès que je ressens une émotion, ça peut partir très loin. Mais du coup, j'ai un peu du mal à m'arrêter. Et ouais, du coup, il y a la joie du coup dans ces moments de folie, on va dire. Après, des fois, ça m'arrive d'être super triste aussi. Mais je pense que je préfère être joyeuse. Mais trop joyeuse, c'est fatigant. Parce qu'en plus, après, j'ai l'impression de dire n'importe quoi et d'être insupportable avec tous les gens autour. Et du coup, je m'en veux pour ça. Et en plus, après, ça me fatigue et du coup, il faut que je me repose. Mais là, j'essaye de me laisser être joyeuse et folle de plus en plus. Et sans me dire, c'est pas bien ce que t'as fait. Enfin, c'est pas bien d'être comme ça parce que les gens, ils vont penser que t'es ch'tardée. Enfin, je me souviens que je ressassais tout le temps mes conversations. Genre, vraiment, je passais en boucle et à chaque fois, je me disais, mais oh, j'aurais dû dire ça, pourquoi je dis ça? Mais la personne, elle a dû penser que je voulais dire un truc comme ça. Enfin, vraiment insupportable. Tout le temps me reprocher de pas avoir dit les choses assez bien, de pas m'être assez fait bien comprendre, de pas. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Et après, pendant les cours, je me souviens juste que, par exemple, si on avait un contrôle, je répondais à des trucs, mais comme si c'était. Je savais pas ce que je faisais là et comment les gens ils savaient ce qu'on devait répondre et tout. Alors que après je me souviens qu'à ce contrôle là j'avais une bonne note, du coup je ne comprends pas ce qui s'est passé et je sais pas si c'est juste mes souvenirs qui sont totalement flous et bizarres. Bah le stress c'est juste que c'est je le sens un peu dans mon corps, dans le ventre, dans le cœur et tout. Et un peu la confusion aussi mentale peut-être. De pas pouvoir se poser, voir les idées, enfin voir les choses clairement, enfin de toujours avoir peur de rater, de pas bien répondre, des trucs comme ça.
Je dois retenir la leçon, faut pas parler quand on sait pas. Mes gros dans les doigts, jamais trop serein dans mes choix. L'angoisse a pris des rides, on s'est aimé auprès des rites. Je veux que être une légende, fuck shit, j'ai perdu ma B-élite. Ceux qui parlent mal, un paquet de clubs, des cartons dans mon cartable. Pas trop par clash, je suis un garçon du bordable. À la fin, je serai tricard sous mon Bartman. Dans le parrain, j'ai 10 000 mensonges. À faire, fallait voir ce que j'étais prêt. Je me rappelle de mon rêve d'hier soir. Fallait y être, fallait voir comme j'étais frais. J'ai pas grand monde à protéger. Passer la journée à protéger. Passer la journée à protéger. Passer la journée à protéger. Pas grand monde à protéger. Passer la journée à protéger. Passer la journée à protéger. La journée à protéger. J'pourrais donner ma vie si j'suis pas belle. Faut souffrir pour rester différent. J'parle depuis mon écosystème comme si j'avais tout vu. Mais le monde il est grand. J'lis des grandes choses sur un petit écran. J'regarde pas dans les yeux. Quand j'avais du shit dans les pneus, j'crois que j'me sentais mieux. J'pourrais donner ma vie si j'suis pas belle. Faut souffrir pour rester différent. J'ai jeté mes remords à la poubelle. Les sourires, les larmes et les pieds pendent. En vrai j'm'en répondrais si elle m'appelle. La fin ça fait fuir mes crampes. Mon cœur aurait besoin d'une attelle. Il parle en mort, j'peux l'entendre crier à l'aide. Ce matin j'voulais tout lâcher. J'ai failli tout gâcher. Le cerveau tout haché. J'ai faim, j'vais tout mâcher. J'suis l'étranger d'ici. J'ai laissé tout passer. J'peux pas me ranger d'ici.
je les ai développés quand j'étais gosse. J'ai du mal avec l'amour, j'en aurais bien voulu quand j'étais moche. Du mal avec le violon, avec la cour que tu me fais. On sait, tu sais pas, mais tu dis que tu le sais. Que je me hais, que tu le sais. Que tu me tords, que tu me saignes. J'suis pas trop guest de rose, mais j'tiffe qu'à plus toute la merde. J'casse la serrure avec le tool, comme envie de braquer toute la terre. J'ai dit des tas de trucs que j'savais pas et ça m'a fait des blèmes. J'ai promis des tas de trucs que j'savais pas, j'compte plus les promesses que j'ai qu'elles. J'pourrais donner ma vie si j'suis pas belle, faut souffrir pour rester différent. J'parle depuis mon écosystème comme si j'avais tout vu, mais le monde il est grand. J'lis des grandes choses sur un petit écran, j'regarde pas dans les yeux. Quand j'avais du shit dans les pneus, j'crois que j'me sentais mieux. J'pourrais donner ma vie si j'suis pas belle, faut souffrir pour rester différent. J'ai jeté mes remords à la poubelle, les sourires, les larmes et les billets bancs. En fait j'm'en répondrais si elle m'appelle, la force ça fait fuir mes crampes. Mon cœur aurait besoin d'une attelle, il parle en mort, j'peux longtemps crier allez.
Univox.
Tout ça, c'est épuisant. On rêve juste de faire une pause, de s'asseoir au bord de la mer et d'écouter le bruit des vagues. Mathieu, qui a du mal à communiquer, trouve refuge dans les jeux vidéo. Chaque soir, avant le dîner, il se retrouve avec ses frères et regarde l'un d'eux jouer sur l'ordinateur.
J'arrivais pas à communiquer avec les autres. Vraiment énormément de mal à communiquer. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'étais en train de très enfermé, très anxieux aussi. Je me sentais aussi mal par rapport à ça, c'était pas normal, j'étais... Je sentais moins bien, moins bon dans les interactions sociales, vraiment moins bon. J'arrive pas naturellement à engager une conversation et à la maintenir. Soit dans la vraie vie ou sur internet. Ça date de loin, j'ai l'impression que j'avais des petits Game & Watch quand j'étais petit. On t'avait ramené un que j'avais, ou deux, que j'avais bien accroché, mais c'était pas sans plus. C'est plus tard, c'est quand mon grand frère achetait un ordinateur. Ouais. Soi-disant pour travailler dessus, mais en fait, pour jouer. Donc, tous les soirs, il nous sert regarder moi et mon petit frère de temps en temps. Pas forcément de m'ouvrir, mais de me divertir, de m'évader surtout. Ouais. Ça permettait surtout ça, oui.
Aude, elle, fait ses devoirs en musique pour réussir à se concentrer. Elle arrive à compenser ses difficultés pendant toute sa scolarité sans avoir trop de problèmes. Et même avec de très bonnes notes, surtout en maths.
Enfin, je me souviens juste que quand j'étais, par exemple, au lycée ou quoi... Si ma famille regardait un film en bas le soir, moi je restais dans ma chambre pour faire des maths par exemple et écouter de la musique. Enfin, le soir, samedi soir. Bon, après il n'y avait pas de notion de samedi soir. Enfin c'était, je pense, qui me rechargeait le mieux et surtout qui me plaisait le plus.
Petit à petit, elle se renferme sur elle-même. Après un bac scientifique, elle choisit d'entrer en fac de maths, mais jusque-là elle compensait ses difficultés. En prépa, la charge de travail devient trop lourde, elle s'épuise et n'arrive plus à récupérer. Le handicap invisible nécessite d'avoir ses propres outils, astuces pour assimiler les connaissances, d'être en forme. Personnellement, dès que je suis fatigué, on remarque encore plus que je suis dyslexique, en me trompant de mots ou en mélangeant les mots dans une phrase. Il est fréquent que les personnes en situation de handicap entreprennent des démarches pour demander de l'aide après avoir traversé des épreuves particulièrement difficiles. Et bien souvent, cela n'arrive qu'à l'âge adulte. C'est à 31 ans que Mathieu reçoit un diagnostic d'autisme. Un tournant déclenché par la perte de son emploi et les inquiétudes de sa mère qui l'encourage à consulter un neurologue pour faire un bilan.
Il y a des personnes qui, pendant des années, ne vont pas vouloir avoir le diagnostic et puis à un moment, ils vont se dire il faut le faire. Et on a énormément de personnes qui, après 40 ans ou après un burn-out, une dépression, vont faire ce diagnostic-là ou beaucoup aussi vont se découvrir découvrir ce qu'est l'autisme ou un autre trouble et se dire tiens, j'ai beaucoup de caractère de ça, il faut que je fasse un diagnostic.
C'est vraiment beaucoup plus tard, 31 ans, que j'ai eu toujours des problèmes du côté professionnel. J'ai eu mal à garder un emploi avec le côté social de l'entreprise, les interactions avec les autres aussi. De plus en plus de mal quand j'ai, après, à 31 ans, j'avais perdu un emploi une fois de plus. Ma mère reparlait encore de l'autisme. Mais j'acceptais là que vraiment il y avait encore une fois des amis qui pensaient que j'étais autiste. Vraiment, il y avait vraiment des trucs qui leur parlaient, donc j'ai accepté d'aller passer un test avec une application, un test d'autisme sur Paris avec une association qui s'appelle Asperger Aide France. On fait passer le test et là j'ai passé le test et j'ai diagnostiqué autisme. Ouais.
Se faire diagnostiquer à l'âge adulte peut être un véritable défi. Les difficultés accumulées au fil des années refont surface, suscitant de nombreuses remises en question. Pour mieux comprendre ces difficultés, il existe des lieux de rencontre comme les cafés Autis, Café 10 ou Café TDAH. L'association Mauvais Cancre 34 en organise, offrant aux personnes concernées un espace pour échanger, partager leur expérience et peut-être prendre conscience de leurs propres enjeux.
Alors j'aime bien dire des fois qu'on sert un peu à rien des fois en café parce que les échanges se font tout seuls. Entre eux, ils vont découvrir des similitudes dans leur parcours, se conseiller sur des petites astuces pour mieux vivre au quotidien. Nous, on est plutôt là pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir la parole. Parce que c'est vrai que certains ont tendance un peu à toujours parler et à mobiliser la parole. On est aussi là pour apporter des points de vue, enfin, ou surtout des aides au niveau des les lois qui existent, les aménagements qu'on peut avoir, les petites astuces aussi, les bonnes personnes, les bons dispositifs. Alors en fait, ça part d'un constat. Moi, j'ai créé la première association Mauvais Cancre, il y en a plusieurs en France, en Auvergne, et dans un département, il n'y a rien du tout. Mais vraiment rien du tout. En professionnel de santé, c'est de la misère. En association, c'est de la misère. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour les parents? Qu'est-ce qu'on fait pour les aidants? Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes porteuses de troubles? On ne peut pas échanger entre nous. On ne peut pas tout simplement se sentir moins seul. Donc, il fallait faire quelque chose. Et donc, ça a démarré là en faisant ces cafés. Café 10, ça a commencé par un café 10. Puis après, on s'est élargi aux autres troubles du neurodéveloppement. Parce qu'on a rarement qu'un trouble en plus.
C'est le cas de Aude qui va à un premier café TDAH.
C'était en novembre et c'était pour un peu rencontrer des gens, découvrir, enfin pour parler de ça, comprendre un peu comment je fonctionnais et voilà, pour retrouver des personnes avec qui, enfin qui avaient vécu la même chose ou qui se posaient des questions ou qui avaient des réponses à me donner peut-être. Voilà.
Prendre conscience de ces difficultés n'est pas toujours évident. Pendant des années, Mathieu s'est senti différent, vraiment bizarre, accumulant une profonde incompréhension. À 24 ans, il franchit une première étape en se rendant dans un café autiste, un espace d'échange avec d'autres personnes. Mais le doute persiste. Il ne se reconnaît pas totalement dans ces discussions et finit par refuser d'y retourner ou d'entamer un diagnostic.
C'est pas moi qui décide, surtout ma mère qui, à la fois, à une autre période avant de retourner 24 ans, les amis à elle lui ont parlé de moi, ils ont dit qu'elle suspectait moi d'être autiste par rapport à les enfants qu'ils avaient eux, qui avaient des signes d'autisme aussi. Elle m'en a parlé, on est allé voir avec une réunion d'un café autisme sur, je sais plus où, sur Paris ou je sais plus où, pour conseiller. Ça me paraissait bizarre, j'ai pas trop envie d'y aller, mais je suis forcé un peu. Et genre, des gens, oui, qui me ressemblaient un peu, mais qui du coup étaient très, j'étais bizarre, j'aimais pas vraiment être bizarre et aussi introverti que j'étais. J'avais des gens qui étaient un peu comme ça, ça m'était mal à l'aise. Du coup, après la réunion qui s'est passée assez bien, que j'ai pas trop de souvenirs, ma mère demandait si est-ce que tu veux continuer avec ces gens-là. Et sur le coup, j'ai dit non, je le sens pas. C'est ce que j'ai dit, non, je le sens pas. Parce que j'étais mal à l'aise, et j'étais introverti et très, très introverti, très bizarre, très mal dans ma peau. Le fait de rentrer sans qu'il y ait des gens qui sont aussi comme ça, qui renvoient aussi cette image des gens mal dans leur peau, ça m'était mal à l'aise. C'était le fait d'avoir des gens qui étaient plutôt, qui avaient aussi donc des problèmes mentaux, qui m'est mal. La manière dont on est élevé encore, ici à propos de handicap mental, de gens qui sont forcément un côté forcément plus, je sais pas, plus pervers, plus dangereux. Il y a vraiment une désastration de la santé mentale en général. J'avais intéressé un peu comme tout le monde, il me mettait mal à l'aise. Parce qu'il m'a envoyé ça, des gens pas très bien à leur peau. C'est vraiment, je sentais pas. Elle continue à. J'avais un effet repoussoir, quoi.
C'est au bout de ce long parcours que Mathieu prend enfin conscience de ses difficultés.
C'est vraiment à 31 ans qu'on m'a expliqué mieux, ça se restait assez. De manière assez simple, mais c'était mieux, plus exact. Parce que, ensuite, avec toutes les. Un peu les gens que j'ai vus par la suite, j'ai fait quelques ateliers d'habileté sociale. Côté organisé, je nous a conseillé un livre ou deux ensuite, suite au diagnostic. Je me suis renseigné un petit peu là-dessus, pas suffisamment au début, puis ces dernières années beaucoup plus.
Aude s'aide avec le yoga et la lecture. Elle écrit également beaucoup pour poser ses émotions.
Et du coup, ça m'a vachement aidé pour justement les émotions et prendre, un peu remobiliser mon corps, Genre si je fais pas de sport et tout, il se referme assez vite. Je pense que je me renferme direct. Et du coup, ça faisait du bien de réétirer, de reprendre le contrôle de mon corps peut-être. Et aussi le fait de devoir l'écrire, ça me fait un peu relativiser et de bah d'être plus objective par rapport à certaines choses qui se sont passées sur lesquelles j'aurais pu être super susceptible et le prendre mal mais pas de la bonne façon que j'aurais dû le prendre, surinterpréter. Et alors que le fait d'écrire, je pense que ça bah je suis obligée de d'écrire un peu, enfin je vais pas écrire enfin, je suis obligée de mettre un peu d'objectivité, de mettre vraiment les faits tels qu'ils se sont passés, et du coup de me dire « Ah oui, c'est vrai que peut-être que là, j'abuse un peu. »
Au final, se faire diagnostiquer à l'âge adulte, c'est une démarche complexe qui varie énormément selon le vécu de chacun. Oui, le handicap peut être contraignant, mais le parcours vers un diagnostic l'est encore plus. Souvent, chacun trouve ses propres stratégies pour avancer. Pour Mathieu, ce sont les jeux vidéo. Pour Aude, le yoga. Et vous, quelles sont les vôtres ? Quelles que soient vos ressources, préservez-les.
Bah, je dirais que c'est assez fourbe parce que on peut toujours se demander si on a, enfin, on peut toujours penser qu'on a rien ou de spécial ou quoi. Et en même temps, je sais pas s'il y a vraiment une distinction à faire ou voilà. Mais que quand on s'en rend compte, bah, ça nous permet de, enfin, je sais pas, de peut-être de plus nous comprendre et de plus nous accepter comme ça et nous laisser, enfin, nous foutre la paix un peu.
Merci d'avoir écouté Handicap, verdict d'un diagnostic, un épisode d'Univox. C'était Antonin Brayer pour Radio Campus Montpellier. Je tiens à remercier Aude et Mathieu pour leur témoignage. Je remercie également l'association Mauvais Cancre 34 pour leur participation à la réalisation de cet Univox. Et bien sûr à toute l'équipe de Radio Campus Montpellier. Si vous avez manqué une partie de l'épisode, vous le retrouverez sur le site de Radio Campus Montpellier.